Le Tétradrachme de Dionysos par Ernest Brama. Il était 8 heures du soir et il pleuvait. Ce qui n'est guère une heure où un commerce aussi limité dans sa clientèle que celui d'un marchand de pièces de monnaie peut espérer attirer de potentiels acheteurs. Mais une lumière apparaissait encore dans la petite boutique qui portait sur sa vitrine le nom de Baxter et dans le bureau encore plus petit situé à l'arrière, le propriétaire lui-même était assis en train de lire le dernier Pall Mall. Sa présence devait s'avérer justifiée, car la sonnette de la porte d'entrée se fit bientôt entendre, et M. Baxter, jetant son journal, s'avança. En fait, le marchand attendait quelqu'un et ses manières, lorsqu'il entra dans la boutique, laissaient clairement entendre qu'il s'agissait d'un client important. Mais dès le premier coup d'œil à son visiteur, l'excès de déférence disparut de son attitude, pour ne laisser en présence du client occasionnel que le commerçant courtois et sûr de lui. « Monsieur Baxter, je crois, » dit ce dernier. Il avait mis de côté son parapluie dégoulinant et déboutonné par-dessus les manteaux pour atteindre une poche intérieure. « Vous ne vous souvenez guère de moi, je suppose ?»« Monsieur Carlyle, il y a 2 ans, je me suis occupé d'une affaire pour vous. »«
Bien sûr, Monsieur Carlyle, le détective privé. »«
Agent d'enquête. »
corrigea M. Carlyle avec précision.
« Eh bien, sourit M. Baxter, je suis un marchand de pièces de monnaie et non un antiquaire ou un numismate. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous dans ce domaine ?»«
Oui, répondit son visiteur, c'est à mon tour de vous consulter. »
Il sortit de sa poche intérieure une petite bourse en cuir et en sortit soigneusement quelque chose qu'il déposa sur le comptoir.
« Que pouvez-vous me dire à ce sujet ?»
Le commerçant examina la pièce un instant.
« Il n'y a pas de doute,
répondit-il, il s'agit d'un tétradrachme sicilien de Dionysos. »
« Oui, je sais. C'est écrit sur l'étiquette de la vitrine où il était rangé. Je peux vous dire en outre qu'il est censé s'agir d'un objet pour lequel Lord Seastoke a donné 250 livres lors de la vente Bryce en 1894.
« Alors vous en savez plus que moi, » fit remarquer M. Baxter.
« Pourquoi venir me consulter ?»
« J'aimerais savoir, » répondit M. Carlyle, « si elle est authentique ou non. »
« Des doutes ont-ils été émis à ce sujet ?»«
Certaines circonstances ont fait naître un soupçon, c'est tout. » Le marchand examina à nouveau le tétradrachme à la loupe, en le tenant par la tranche avec le doigté d'un expert. Puis il secoua lentement la tête en signe d'aveu d'ignorance.
« Bien sûr, je pourrais faire une supposition. »«
Non, » l'interrompit précipitamment M. Carlyle. « Une arrestation en dépend et j'ai besoin d'une certitude. »«
Vraiment, Monsieur Carlyle ?» dit M. Baxter avec un intérêt accru.
« Eh bien, pour être tout à fait franc, cette affaire n'est pas de mon ressort. S'il s'agissait d'un penny saxon rare ou d'une contrefaçon, je mettrais ma réputation en jeu en donnant mon avis, mais je m'occupe peu des séries classiques. »
M. Carlyle ne chercha pas à dissimuler sa déception en remettant la pièce dans la bourse et en replaçant cette dernière dans sa poche intérieure.
« Je comptais sur vous, » grommela-t-il d'un air de reproche.
« Où diable, mais j'allais maintenant. »
« Il y a toujours le British Museum. »«
Ah, bien sûr, merci. Mais est-ce que j'y trouverai quelqu'un qui pourra me renseigner ?»«
Maintenant, aucune chance, » répondit M. Baxter.
« Allez-y demain matin. »«
Mais j'ai besoin de l'information ce soir, » expliqua le visiteur, de nouveau désespéré.
« Demain, il sera trop tard. »
M. Baxter ne se montra pas très encourageant.
« On ne peut guère s'attendre à trouver quelqu'un au travail en ce moment, »
fit-il remarquer. « Je ne devrais plus être là depuis 2 heures, mais j'avais rendez-vous avec un millionnaire américain qui a fixé lui-même son heure. »
M. Baxter fit un léger clin d'œil.
« Il s'appelle Hofmunson et un jeune et brillant généalogiste a retracé sa descendance depuis Offa, roi de Mercie. Il veut donc, tout naturellement, une série d'Offa, comme une sorte de preuve.
Très intéressant. »
murmura M. Carlyle en tripotant sa montre.
« J'aimerais beaucoup discuter avec vous de vos clients millionnaires. »
« Une autre fois. »
« Pour l'instant,
écoutez, Baxter, ne pourriez-vous pas me présenter un marchand de ce genre de choses qui habite en ville? Vous devez connaître des dizaines d'experts. »
« Mais Dieu du ciel, M. Carlyle, je connais leur commerce, pas leur lieu de villégiature, »
dit M. Baxter, l'air stupéfait.
« Ils peuvent vivre à Park Lane ou à Petticoat Lane, pour ce que j'en sais. »
D'ailleurs, il n'y a pas autant d'experts que vous semblez l'imaginer,
et les deux meilleurs se disputeront très probablement à ce sujet. Vous avez déjà eu affaire à des témoins experts, je suppose.
Je ne veux pas de témoins.
Il ne sera pas nécessaire de témoigner. Tout ce que je veux, c'est une déclaration faisant autorité et sur laquelle je puisse me reposer.
N'y a-t-il personne qui puisse vraiment dire si la chose est authentique ou non ?
Le silence de M. Baxter se fit cynique alors qu'il continuait à regarder son visiteur. Puis il se détendit.
« Attendez un peu. Il y a un homme, un amateur, dont je me souviens avoir entendu des choses merveilleuses il y a quelque temps. On dit qu'il sait vraiment. »«
Voilà !» s'exclama M. Carlyle soulagé.
« Il y a toujours quelqu'un.
Qui est-ce ?»
Il tendit le cou pour apercevoir une luxueuse voiture qui s'arrêtait devant sa vitrine.
« Wayne Carrados !»
« Vous m'excuserez, Monsieur Carlyle, n'est-ce pas ?»«
On dirait que c'est Monsieur Hoffmanson. »
Monsieur Carlyle s'empressa de noter le nom.
« Wayne Carrados,
c'est ça.
Où vit-il ?»«
Je n'en ai pas la moindre idée, »
répondit Baxter, en vérifiant sa cravate dans un miroir mural. « Je n'ai jamais vu cet homme personnellement. Maintenant, Monsieur Carlyle, je regrette de ne pouvoir faire plus pour vous. Vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas ?»
Monsieur Carlyle ne pouvait pas faire semblant de ne pas comprendre. Il eut l'honneur de tenir la porte ouverte au représentant transatlantique de la lignée d'Offa lorsqu'il sortit, puis se dirigea vers son bureau à travers les rues boueuses. Il n'y avait qu'un seul moyen de retrouver une personne dans un délai aussi court, consulter les pages des annuaires, mais il ne misait pas lourd sur ses chances de réussite. Celle-ci lui sourit cependant. Il découvrit très vite un Wayne Carrados vivant à Richmond, et mieux encore, des recherches plus approfondies ne permirent pas d'en trouver un autre. Il n'y avait apparemment qu'une seule personne de ce nom dans les environs de Londres. Il nota l'adresse et se mit en route pour Richmond. M. Carlyle apprit que la maison se trouvait à une certaine distance de la gare. Il prit un taxi et se fit conduire, laissant le véhicule à l'entrée. Il était fier de son sens de l'observation et de la précision des déductions qui en découlaient, une particularité de son métier.
Ce n'est rien d'autre que d'utiliser ses yeux et d'ajouter deux et deux,
déclarait-il modestement, lorsqu'il voulait paraître humble.
Et lorsqu'il atteignit la porte d'entrée des Turrets, il s'était fait une certaine opinion de la position et des goûts de l'homme qui y vivait. Un serviteur fit entrer M. Carlyle et prit sa carte de visite, sur laquelle était annotée une demande d'entrevue qui ne retiendrait M. Carrados pas plus de 10 minutes. La chance lui souriait encore. M. Carrados était chez lui et le recevrait immédiatement. Le domestique, le hall qu'ils traversèrent, la pièce dans laquelle on le fit entrer, tout cela contribua aux déductions que l'observateur silencieux enregistrait à demi inconsciemment.
« Monsieur Carlyle, » annonça le domestique.
Il se trouvait dans une bibliothèque ou un bureau. Le seul occupant, un homme de l'âge de Carlyle, était en train d'utiliser une machine à écrire quand son visiteur était entré. Il se retourna alors et se leva avec une expression de courtoisie formelle.
« C'est très gentil à vous de me recevoir à cette heure-ci, » s'excusa son interlocuteur. L'expression du visage de M. Carrados se modifia légèrement.
« Mon majordome s'est sûrement trompé de nom, » s'exclama-t-il. « N'êtes-vous pas Louis Calling ?»
Le visiteur s'arrêta net et son sourire laissa place à un soudain éclair de colère ou de contrariété.
« Non, monsieur, » répondit-il avec raideur, « mon nom figure sur la carte que vous avez devant vous.
Je vous demande pardon. »
dit M. Carlyle avec une parfaite bonne humeur.
« Je ne l'avais pas vu.
Mais j'ai connu un Calling, il y a quelques années, à St. Michael's. »«
St. Michael's ?»
Les traits de M. Carlyle se crispèrent à nouveau.
« St. Michael's ! Wayne Carrados, mon Dieu !»«
Ce n'est pas Max Wynne, le vieux Winning Wynne. » !»«
Un peu plus vieux et un peu plus empâté, oui, » répondit Carrados.
« J'ai changé de nom, vous voyez ?»
« C'est extraordinaire de se rencontrer comme ça, » dit son visiteur en s'asseyant sur une chaise et en regardant fixement M. Carrados.
« J'ai changé plus que mon nom.
Comment m'avez-vous reconnu ?»«
La voix, »
répondit Carrados. « Elle m'a ramené dans votre petit grenier enfumé où nous... »«
Mon Dieu !»
s'exclama Carlyle avec amertume. « Ne me rappelez pas ce que nous faisions à l'époque. »
Il regarda la belle chambre bien meublée et se remémora les autres signes de richesse qu'il avait remarqués.
« En tout cas, vous semblez assez à l'aise, Wayne. »«
Je suis tour à tour envié et plein, » répondit Carrados, avec une placidité qui semblait le caractériser. « Pourtant, comme vous le dites, je suis assez à l'aise. »«
Envié, je peux comprendre.
Mais pourquoi aurait-on pitié de vous ?»«
parce que je suis aveugle, répondit-il tranquillement.
Aveugle ?
S'exclama M. Carlyle, ouvrant grand ses propres yeux.
Vous voulez dire littéralement aveugle ?
Littéralement. Il y a une douzaine d'années, je chevauchais avec un ami sur une allée traversant une forêt. Il était devant. À un moment donné, une branche m'est revenue dessus. Vous savez à quel point ce genre de choses peut arriver facilement. Elle m'a juste effleuré l'œil. Rien à redire sur ce point.
Et cela vous a rendu aveugle ?
Oui, à terme, cela s'appelle l'amaurose.
J'ai du mal à le croire. Vous avez l'air si sûr de vous et autonome. Vos yeux sont pleins d'expression, seulement un peu plus fixes qu'ils ne l'étaient auparavant.
Je crois que vous étiez en train de taper la machine quand je suis arrivé.
Vous vous moquez de moi ?
Réflexe conditionné, sourit Carrados.
Non, c'est un fait.
Quel terrible châtiment pour vous, Max.
Vous avez toujours été un type impulsif et téméraire, jamais tranquille. Vous devez avoir beaucoup de regrets.
Quelqu'un d'autre vous a reconnu ? Demanda Carrados.
Ah, c'est la voix, avez-vous dit, rétorqua Carlyle.
Oui, mais d'autres personnes ont également entendu votre voix. Seulement je ne m'étais pas trompé par la confiance en des yeux maladroits.
C'est une bonne façon de dire les choses, avoua Carlyle. Vos oreilles ne sont-elles jamais trompées ?
Si je puis me permettre.
Pas pour l'instant.
Ni mes doigts, ni aucun de mes autres sens qui doivent se débrouiller seuls.
Eh bien,
murmura M. Carlyle, coupé dans son élan de sympathie.
Je suis heureux que vous le preniez si bien.
Évidemment, si vous trouvez que c'est un avantage d'être aveugle, mon vieux.
Il s'arrêta et rougit. Je vous demande pardon,
conclut-il avec raideur.
Ce n'est peut-être pas un avantage, répondit l'autre en réfléchissant. Mais il y a des compensations auxquelles on ne pense pas forcément.
Un nouveau monde à explorer, de nouvelles expériences, de nouveaux pouvoirs qui s'éveillent, de nouvelles perceptions étranges, une vie dans la quatrième dimension.
Mais pourquoi me demandez-vous pardon, Louis ?
Je suis un ancien avocat, radié pour falsification d'un compte en fidéocommis,
monsieur Carrados,
répondit Carlyle en se levant.
Asseyez-vous, Louis,
dit Carrados d'un ton suave.
Son visage et même ses yeux incroyablement vivants rayonnaient d'une placide bonhomie.
La chaise sur laquelle vous allez vous asseoir, le toit au-dessus de vous, tout le confort auquel vous avez si aimablement fait allusion,
sont le résultat direct de la falsification d'un compte en fidéocommis.
Mais est-ce que je vous appelle M. Carlyle pour autant ?
Certainement pas, Louis.
Je n'ai pas falsifié le compte, s'écria Carlyle avec véhémence.
Il s'assit cependant et ajouta plus calmement. Mais pourquoi vous racontez tout cela ?
Je n'en ai jamais parlé auparavant.
La cécité invite à la confiance, répondit Carrados.
Nous sommes hors course. La rivalité humaine n'existe plus.
D'ailleurs, pourquoi pas ?
Dans mon cas, le compte a été falsifié.
Bien sûr, ce sont des balivernes,
Max, commenta Carlyle. Néanmoins, j'apprécie votre intention.
Pratiquement tout ce que je possède m'a été légué par un cousin américain,
à condition que je prenne le nom de Carrados. Il a fait fortune grâce à une ingénieuse conspiration consistant à falsifier les rapports de récolte et à en mettre une partie de côté. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que le receleur est aussi coupable que le voleur.
Mais deux fois plus en sécurité.
J'en sais quelque chose, Max.
Avez-vous une idée de ce que je fais ?
Vous allez me le dire, répondit Carrados.
Je dirige une agence de recherche privée.
Lorsque j'ai perdu mon emploi, j'ai dû faire quelque chose pour gagner ma vie. C'est ce qui s'est passé. J'ai abandonné mon nom. J'ai changé d'apparence et j'ai ouvert une agence. Je connaissais parfaitement les aspects juridiques et j'ai demandé à un retraité de Scotland Yard de s'occuper du travail de terrain.
« Excellent !»
s'écria Carrados. « Vous déterrez beaucoup de cadavres ?»«
Non, »
admit M. Carlyle. « Notre activité se situe principalement dans le domaine conventionnel du divorce et de l'escroquerie. »«
C'est dommage, »
remarqua Carrados. « Vous savez, Louis, j'ai toujours eu l'ambition secrète d'être moi-même détective. »
J'ai même pensé récemment que je pourrais encore faire quelque chose dans ce domaine si l'occasion se présentait.
Cela vous fait sourire.
Bien sûr, l'idée.
Oui,
l'idée d'un détective aveugle.
L'aveugle traquant le voyant.
Bien sûr, comme vous le dites, certaines facultés sont sans doute renforcées.
S'empressa d'ajouter M. Carlyle avec prévenance.
Mais sérieusement, à l'exception d'un artiste, je ne pense pas qu'il y ait un homme qui soit plus complètement dépendant de ses yeux.
Quelle que soit l'opinion que Carlyle ait pu avoir en privé,
son apparence ne trahissait pas l'ombre d'un désaccord. Pendant une bonne minute, il continua à fumer, comme s'il éprouvait un réel plaisir visuel à voir les gerbes bleues qui s'envolaient et se dispersaient dans la pièce. Il avait déjà placé devant son visiteur une boîte contenant des cigares d'une marque que ce gentleman appréciait beaucoup, mais qu'il considérait généralement comme inaccessible. Et la facilité et la certitude avec lesquelles l'aveugle avait apporté la boîte et l'avait placée devant lui avait fait naître une interrogation dans l'esprit de Carlyle. « Vous aviez l'habitude d'aimer l'art vous-même, Louis, » fit-il remarquer. « Donnez-moi votre avis sur mon dernier achat. Le lion en bronze sur le meuble là-bas. » Puis comme le regard de Carlyle se promenait dans la pièce, il ajouta rapidement « Non, pas ce meuble, celui qui se trouve à votre gauche. » Carlyle jeta un regard vif à son hôte en se levant, mais l'expression de Carlos n'était que bienveillance. Puis il se dirigea vers la statuette.
« Très beau, » admit-il. « C'est de la période flamande, n'est-ce pas ? C'est une copie du lion rugissant de Vidal. Vidal, un artiste français. » Le timbre de sa voix se fit presque inaudible. Il a aussi eu le malheur d'être aveugle, soit dit en passant. « Vieux cabotin, Max !» s'écria Carlyle. « Cela fait 5 minutes que vous y pensez. » Le malheureux se mordit la lèvre et tourna le dos à son hôte. « Vous vous rappelez quand on trompait cet âne de Sanders et qu'on se riait de lui ?» demanda Carrados, ignorant l'exclamation à demi étouffée par laquelle l'autre homme s'était rappelé à son bon souvenir. « Oui, » répondit Carlyle tranquillement. « C'est très bien, » poursuivit-il en s'adressant à nouveau au bronze. « Comment a-t-il fait ? Avec ses mains ?»« Naturellement, mais je veux dire, comment a-t-il étudié son modèle ?» Aussi avec ses mains. Il appelait ça voir de près. Même avec un lion qui l'a manipulé. Dans ces cas-là, il avait besoin des services d'un gardien qui maîtrisait l'animal pendant que Vidal exerçait ses dons particuliers. Vous n'avez pas envie de me mettre sur la piste d'un mystère, Louis ? Incapable de considérer cette demande comme autre chose qu'une des nombreuses plaisanteries du vieux Max, M. Carlyle était sur le point de faire une réponse appropriée lorsqu'une pensée soudaine lui fit esquisser un sourire complice. Jusque-là, en effet, il avait complètement oublié l'objet de sa visite. Maintenant qu'il se souvenait du douteux Dionysos et de la recommandation de M. Baxter, il supposait immédiatement qu'une erreur avait été commise. Ou bien Max n'était pas Lewin Carrados qu'il recherchait, ou bien le marchand avait été mal informé, car bien que son hôte se soit montré merveilleusement expert face à son malheur, il était inconcevable qu'il puisse décider de l'authenticité d'une pièce sans l'avoir vue. L'occasion semblait belle de se venger de Carrados sans le prenant au mot. « Oui, » répondit-il alors, après une courte réflexion, en traversant à nouveau la pièce. « Oui, je vais le faire, Max. Voici l'indice de ce qui semble être une fraude assez remarquable. » Il mit le tétradrachme dans la main de son hôte. « Qu'en pensez-vous ? » Pendant quelques secondes, Carrados manipula délicatement la pièce du bout des doigts, sous le regard de Carlyle qui affichait un sourire d'autosatisfaction. Puis, avec la même gravité, l'aveugle soupesa la pièce. Enfin, il la toucha du bout de sa langue. « Alors ?» demanda l'autre. « Bien sûr, je n'ai pas beaucoup d'informations. Et si vous m'en disiez plus, je pourrais arriver à une autre conclusion. »« Oui, oui, et... » interrompit Carlyle, en un encouragement amusé. « Je vous conseille alors d'arrêter la femme de chambre, Nina Brun, de communiquer avec les autorités policières de Padoue pour obtenir des détails sur la carrière d'Hélène Brunesi et de suggérer à Lord Seastoke de retourner à Londres pour voir si on lui a volé autre chose dans son cabinet. » La main tâtonnante de M. Carlyle chercha et trouva une chaise sur laquelle il se laissa tomber sans rien dire. Ses yeux étaient incapables de se détacher un seul instant du spectacle très ordinaire, du visage légèrement bienveillant de M. Carrados, alors que le souvenir de son amusement maintenant oublié flottait encore sur ses traits. Il réussit à articuler. « Comment le savez-vous ? Ce n'est pas ce que vous attendiez de moi ? » demanda Carrados d'un ton suave. « Ne vous moquez pas, Max ! » dit Carlyle avec sévérité. « Ce n'est pas une plaisanterie. » Une méfiance inexpliquée à l'égard de ses propres talents de déduction le saisit soudainement en présence de ce mystère. « Comment connaissez-vous Nina Brun et Lord Seastoke ? « Vous êtes un détective, Louis, » répondit Carrados. « Comment sait-on ce genre de choses ? En se servant de ses yeux et en faisant des rapprochements. » Carlyle gémit et tendit un bras avec irritation. « Est-ce que vous vous moquez de moi, Max ? En vérité, vous voyez, bien que cela n'explique pas grand-chose. Comme Vidal, je vois très bien, de près, répondit Cardos, en passant légèrement l'index sur l'inscription du tétradragme.
Pour les distances plus longues, j'ai une autre paire d'yeux. Voulez-vous la tester ?
L'assentiment de M. Carlyle n'était pas très cordial. Il était même légèrement boudeur. Il souffrait du fait qu'il se sentait rabaissé dans son propre domaine, mais il était également curieux.
« La cloche est juste derrière vous, si vous le voulez bien, » dit son hôte. « Parkinson va apparaître. Vous pourrez l'évaluer pendant qu'il sera là. »
L'homme qui avait reçu M. Carlyle s'avéra être Parkinson.
« Ce monsieur est M. Carlyle,
Parkinson, » expliqua Carrados au moment où l'homme entra. « Tu te souviendras de lui à l'avenir ?» L'œil apologétique de Parkinson balaya le visiteur de la tête aux pieds, mais avec une telle légèreté et une telle rapidité qu'il donna à ce gentleman l'impression d'être épousté avec beaucoup de doigté.
« Je m'y efforcerai, monsieur, » répondit Parkinson en se tournant à nouveau vers son maître. « Je serai à la disposition de M. Carlyle chaque fois qu'il m'appellera. C'est tout.
Très bien, monsieur. »
« Louis, » remarqua vivement M. Carrados lorsque la porte fut refermée, « vous avez eu l'occasion d'étudier Parkinson. Comment est-il ?
Comment cela ?
Je vous demande une description. Je suis un aveugle. Je n'ai pas vu mon serviteur depuis 12 ans. Quelle idée pouvez-vous me donner de lui ? Je vous ai demandé de l'étudier. »
« Je sais, mais votre Parkinson est le genre d'homme qu'il est difficile de décrire avec précision. Il est l'incarnation de l'ordinaire. Sa taille est à peu près moyenne.
1m90, murmura Carlyle, un peu plus que la moyenne.
Mais cela se remarque à peine. Rasé de près, cheveux châtains, pas de traits particulièrement marqués, yeux foncés, bonnes dents.
Fausse,
interrompit Carlyle. Les dents, pas votre déclaration.
C'est possible, admit M. Carlyle. Je ne suis pas un expert dentaire et je n'ai pas eu l'occasion d'examiner la bouche de M. Parkinson en détail. Mais quel est l'intérêt de tout cela ? Ses vêtements ?
Oh, juste les habits de soirée ordinaire d'un valet. Il n'y a pas beaucoup de place pour la variété.
Vous n'avez rien remarqué de particulier qui permette d'identifier Parkinson ?
Il portait une bague en or inhabituellement large à l'auriculaire de la main gauche.
Mais ça se retire.
Et pourtant, Parkinson a un grain de beauté indélébile.
Petit, je l'admets, sur le menton.
Et vous, vous êtes un limier,
oh Louis !
En tout cas, répliqua Carlyle, se tordant un peu sous cette satire de bon aloi, bien qu'il fût assez facile d'y voir l'intention affectueuse de Carrados,
en tout cas, j'ose dire que je peux donner une aussi bonne description de Parkinson qu'il peut le faire de moi.
C'est ce que nous allons tester.
Sonnez à nouveau la cloche.
Sérieusement ?
Tout à fait. Nous allons comparer mes yeux aux vôtres.
S'il ne peut pas faire mieux que vous, je renoncerai pour toujours à mon ambition de détective privé.
Ce n'est pas tout à fait la même chose, objecta Carlyle,
mais il sonna la cloche.
Entre et ferme la porte, Parkinson, dit Carrados, lorsque l'homme apparut. Ne regarde plus, monsieur Carlyle. En fait, tu feras mieux de lui tourner le dos. Cela ne le dérangera pas. Maintenant, décris-moi son apparence telle que tu l'as observée.
Parkinson présenta ses excuses respectueuses à M. Carlyle pour la liberté qu'il était contraint de prendre.
M. Carlyle porte des bottes en cuir vernies d'une pointure d'environ 40 et très peu utilisées. Il y a 5 boutons, mais sur la botte gauche, un bouton, le troisième en haut, est manquant, laissant des fils lâches et non la fermeture métallique plus habituelle.
Le pantalon de M. Carlyle est d'un tissu foncé, une ligne gris foncé d'environ 1 demi-centimètre de large sur un fond plus foncé.
Les ourlets sont tournés vers le haut, en permanence, et sont à l'heure actuelle un peu boueux, si je puis dire.
« Très boueux, » interrompit M. Carlyle.
« C'est une nuit pluvieuse, Parkinson. »«
Oui, monsieur, le temps est très mauvais.
Si vous me le permettez, monsieur, je vais vous brosser dans le hall.
La boue est sèche maintenant, je le remarque.
Ensuite, monsieur, » poursuivit Parkinson, revenant à l'essentiel, à des bas en cachemire vert foncé.
La chaîne d'un porte-clés dépasse de la poche gauche du pantalon. Après s'être concentré sur les éléments de la partie inférieure du sujet, l'œil photographique de Parkinson s'occupa de la partie supérieure, et c'est avec un étonnement croissant que M. Carlyle écouta le catalogue fidèle de ses biens. Son bracelet d'or et de platine fut minutieusement décrit. Son foulard bleu tacheté avec son épingle en perles fut présenté, et le fait que la boutonnière du revers gauche de sa redingote montrait des signes d'usure fut dûment noté. Ce que Parkinson avait vu, il l'avait enregistré, mais il n'avait fait aucune déduction. Un mouchoir porté dans le revers de la manche droite n'était pour lui que cela
et non une indication que M. Carlyle était effectivement gaucher. Mais il restait une partie plus délicate de l'entreprise de Parkinson. Il l'aborda avec une double toux. En ce qui concerne l'apparence personnelle de M. Carlyle, monsieur...
Non, ça suffit, s'écria précipitamment l'intéressé. Je suis plus que satisfait.
Vous êtes un fin observateur, Parkinson.
J'ai été formé pour répondre aux exigences de mon maître, monsieur, répondit l'homme.
Il se tourna vers M. Carrados et se retira sans signe de tête. M. Carlyle fut le premier à prendre la parole.
Votre majordome vaudrait 5 livres par semaine pour moi, Max, fit-il remarquer d'un air pensif.
Mais bien sûr,
je ne pense pas qu'il l'accepterait,
répondit Carrados d'une voix tout aussi détachée.
Il me convient très bien. Mais vous avez la possibilité d'utiliser ses services, indirectement.
Vous le pensez toujours sérieusement ?
Je remarque chez vous un refus chronique de me prendre au sérieux, Louis. C'est vraiment, pour un Anglais, presque douloureux.
Y a-t-il quelque chose d'intrinsèquement comique en moi ou dans l'atmosphère des Tourettes ?
Non, mon ami, répondit M. Carlyle, mais votre proposition est si généreuse qu'elle en devient improbable. Alors, pourquoi ?
Ce pourrait être un simple caprice. Mais c'est plus que cela, répondit Carrados. C'est en partie de la vanité, en partie de l'ennui, en partie... Le ton de sa voix se fit plus tragique que comique maintenant, en partie de l'espoir.
M. Carlyle eut trop de tact pour approfondir le sujet. Ce sont 3 motifs acceptables, admit-il. Je ferai tout ce que vous voulez, Max, à une condition.
D'accord, laquelle ?
Que vous me disiez comment vous en savez autant sur cette affaire.
Il tapota la pièce d'argent posée sur la table près d'eux.
Je ne suis pas quelqu'un que l'on surprend facilement,
ajouta-t-il.
Vous ne croirez pas si je vous dis qu'il n'y a rien à expliquer, que c'est une simple présomption.
Non, répondit Carlyle d'un ton laconique, absolument pas.
Vous avez tout à fait raison. Et pourtant la chose est très simple.
Les choses le sont toujours, quand on les connaît, soliloqua l'autre. C'est ce qui les rend si confusément difficiles quand on est dans l'ignorance.
Je vous explique.
À Padoue, qui semble d'ailleurs retrouver son ancienne réputation de berceau des antiquités contrefaites, vit un artisan ingénieux du nom de Pietro Stelli. Cette âme simple, qui possède un talent qui n'est pas inférieur à celui de Cavino à son meilleur niveau, s'est lancé depuis de nombreuses années dans la fabrication de pièces grecques et romaines rares, une activité qui n'est pas sans intérêt. En tant que collectionneur et étudiant de certaines pièces coloniales grecques et spécialiste des faux, je connais le travail de Stelli depuis des années. Dernièrement, il semble être tombé sous l'influence d'un escroc international appelé, à l'époque, Don Pierre, qui a rapidement vu un moyen d'utiliser le génie de Stelli à un niveau professionnel. Hélène Brunesi, qui dans la vie privée est, et vraiment je crois, Madame Don Pierre, a volontiers prêté ses services à l'entreprise.
Tout à fait, acquiesça M. Carlyle, tandis que son hôte marquait une pause.
Vous voyez où je veux en venir maintenant ?
Pas vraiment, pas en détail, avoua M. Carlyle.
L'idée de Dompierre était d'avoir accès à certaines des vitrines les plus célèbres d'Europe et de remplacer les pièces authentiques par les fabrications de Stelli. La collection princière de raretés qu'il allait ainsi amasser pourrait être difficile à écouler en toute sécurité, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'il avait mûri ses plans.
Hélène, en la personne de Nina Brun, une femme de chambre anglaise d'origine française, rôle qu'elle remplit à la perfection, devait obtenir des empreintes à la cire des pièces les plus précieuses et procéder à l'échange lorsque les faux lui appartiendraient. De cette manière, on espérait évidemment que la fraude ne serait révélée que longtemps après que les vraies pièces aient été vendues. Et je crois savoir qu'elle a déjà fait son travail avec succès dans plusieurs maisons. Ensuite, impressionnée par ses excellentes références et ses compétences, ma gouvernante l'a engagée et pendant quelques semaines, elle s'est acquittée de ses tâches ici. Cependant, ce détail du plan lui a été fatal, car j'ai le malheur d'être aveugle. On m'a dit qu'Hélène avait un visage si angélique qu'elle ne pouvait pas éveiller les soupçons. Mais je n'ai pas pu me laisser impressionner et son apparente innocence ne lui a servi à rien. Mais un matin, mes doigts, qui bien sûr ne savaient rien du visage angélique d'Hélène, ont découvert un toucher inhabituel sur la surface de mon euclide préféré. Et bien qu'il n'y ait sans doute rien à voir, mon odorat m'indiqua que de la cire avait été récemment pressé contre lui. J'ai commencé à me renseigner discrètement et entre-temps, mes vitrines ont été déposées à la banque locale pour être mises en sécurité. Hélène riposta en recevant un télégramme d'Angers qui l'appelait au chevet de sa vieille mère.
la mère âgée succomba. Le devoir obligea Hélène à rester au chevet de son père éploré, et sans doute les Tourettes furent-elles rayées des opérations de l'organisation criminelle et rangées dans la catégorie mauvais plan.
« Très intéressant, » admit M. Carlyle, « mais au risque de paraître obtus. »
Ses manières étaient devenues délicatement châtiées.
« Je dois dire que je ne parviens pas à établir le lien inévitable entre Nina Brun et ce faux particulier,
en supposant qu'il s'agisse d'un faux.
« Rassurez-vous, Louis, » répondit Carados, « il s'agit d'un faux. » Et nul autre que Pietro Stelli n'aurait pu le réaliser. C'est le lien essentiel. Bien sûr, il y a des éléments accessoires.
Un détective privé qui vient me voir d'urgence, avec un remarquable tétradragme dans la poche, qu'il annonce comme étant l'indice d'une remarquable fraude,
eh bien vraiment, Louis, il n'est pas nécessaire d'être aveugle pour voir clair dans tout cela.
Et Lord Seastoke, je suppose que vous avez découvert par hasard que Nina Brun s'était rendue chez lui.
Non? Je ne peux pas prétendre le savoir, sinon je l'aurais immédiatement averti lorsque j'ai découvert, tout récemment, l'existence du gang.
En fait, la dernière information que j'ai eue sur Lord Seastoke était une ligne dans le Morning Post d'hier indiquant qu'il était toujours au Caire. Mais beaucoup de ses articles... Il passa son doigt presque amoureusement sur la course de char qui ornait le revers de la pièce de monnaie et s'interrompit pour faire une remarque.
Vous devriez vraiment vous pencher sur le sujet, Louis.
Vous n'imaginez pas à quel point cela pourrait vous être utile un jour.
Vous avez raison,
répliqua Carlyle d'un air maussade.
La pièce originale coûte 250 livres, je crois.
Pas très cher, à mon sens. Elle rapporterait 500 livres à New York aujourd'hui. Comme je le disais, beaucoup sont littéralement uniques.
Ce joyau de l'époque Simon est, voici sa signature, vous voyez.
Pietro est particulièrement doué pour les lettres.
Et comme j'ai manipulé le véritable tétradragme il y a environ 2 ans, lorsque Lord Seastoke l'a exposé lors d'une réunion de notre société à Albemarle Street, il n'y a rien d'extraordinaire à ce que je puisse appréhender les tenants et les aboutissants de votre mystère. En fait, j'ai l'impression que je devrais m'excuser de la simplicité de ma déduction.
Je pense, fit remarquer M. Carlyle, en examinant d'un œil critique les fils d'effet de sa botte gauche,
que des excuses à ce sujet seraient plus appropriées de ma part.
C'était le Tétradragme de Dionysos par Ernest Brama.